La revue de presse avec David Abiker.
La vengeance de Poutine est à la une des journaux.
La Stampa en Italie titre « La vengeance de Poutine ». La peur revient dans les rues de Kiev, c'est la une d'El País en Espagne. Kiev bombardé dans son cœur et ses infrastructures, c'est le soir en Belgique. En Allemagne, le Frankfurt Allgemeine Zeitung choisit ce titre « La solidarité allemande après les bombardements russes ». Pour le Washington Post, le conflit change de nature et de rythme. À tel point que se pose aujourd'hui la question d'un possible changement de stratégie côté occidental, analyse Le Monde. Alors que la guerre se trouve à un tournant, certains se demandent si les États-Unis et leurs alliés ne devraient pas aller plus loin que d'aider Kiev à se défendre en contribuant plus énergiquement à faciliter une victoire ukrainienne, donne encore le Washington Post. Selon le Guardian anglais, Kiev pourrait, à l'occasion de la réunion d'urgence du G7 qui a lieu aujourd'hui, exiger un changement radical concernant l'aide apportée par l'Occident après les bombardements russes.
David Abiker, que dit exactement ce matin la presse française ?
Déluge de frappes russes, titrait hier Le Monde. Pour Libération, c'est la stratégie de la terreur. Pour le Figaro et les Échos, Poutine se venge. Ensuite, il y a les analyses qui divergent. Pour l'Opinion, l'ours russe blessé dans son orgueil est plus dangereux que jamais. Sur les 80 missiles lancés par la Russie, la moitié a été interceptée, observe Gilles Sangès. L'Occident pourra difficilement résister à de nouvelles demandes de livraison d'armes. Pour Libération, ces bombardements sont un aveu de faiblesse. C'est la loi du talion, une vengeance pure et en aucun cas une stratégie militaire. N'empêche, conclut Alexandra Schwarzbrod, c'est une situation hautement inflammable. Pour Yves Bourdillon des Échos, si la riposte russe peut satisfaire les durs du régime, elle sera sans doute peu efficace. Les destructions de cibles civiles affaiblissent rarement la détermination des peuples visés. Enfin, dans le Figaro, Philippe Gilly parle de fuite en avant pour le Kremlin. Pour l'éditorialiste, Poutine se présente comme une victime du terrorisme, ce qui pourrait prêter à sourire, mais dans la bouche de ce champion de l'antiterrorisme du Caucase à la Syrie, le mot renvoie un message à la nation russe. Il signifie qu'il n'y a pas de marche en arrière possible. De quoi préoccuper les sponsors de la machine de guerre ukrainienne ? Faut-il acculer le maître du Kremlin à la défaite ou préparer Kiev à lui laisser une porte de sortie ? Plus loin dans le Figaro, c'est Renaud Girard qui voit les choses plus positivement. Maintenant que le rapport de force est établi et qu'il y a un équilibre militaire sur le terrain, la négociation politique devient possible.
L'autre gros titre des journaux, c'est la pénurie d'essence.
Ce que la crise énergétique promettait, la CGT l'a fait. Les Français pris au piège de la pénurie de carburant, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Si vous cherchez les trois lettres CGT à la une des journaux, vous ne les trouverez pas. La France craint la panne sèche, s'inquiète la Dépêche du Midi. Grève reconduite, station à sec, constate Paris-Normandie. Il n'y a guère que le quotidien communiste La Marseillaise pour se réjouir avec ce titre hors sol. La grève fait le plein. Et l'Opinion revient ce matin sur la grosse colère d'Emmanuel Macron que son entourage dit furieux et qui a exigé qu'une issue soit trouvée dans les prochaines heures à cette crise de l'approvisionnement. Ce n'est pas au président de la République de faire la négociation chez Esso et Total, a lancé hier le président agacé. Ah oui ? Mais qui a demandé à Elisabeth Borne d'appeler le patron de Total pour lui dire de mettre de l'eau dans son plein et de se mettre à la table des négos avec la CGT ? Qui a estimé que les salariés étaient légitimes lorsqu'ils veulent avoir leur part de la valeur ajoutée créée par l'entreprise ? Qui n'encouragera pas un bras de fer avec la CGT car il ne veut pas rallumer la mèche des gilets jaunes ? La réponse est dans l'Opinion, mais vous avez déjà trouvé. Dans l'Opinion également, une autre analyse du conflit. Philippe Martinez passe la main en 2023, donc la CGT est traversée de vents contraires, de manœuvres internes en vue des prochaines élections. Vous y apprendrez que les chimistes de la CGT, qui font partie des opposants les plus durs à Martinez, ne sont pas fâchés de préparer les élections avec une démonstration de force qui paie. Contrairement aux journées d'action des 22 et 29 septembre derniers qui sont passées inaperçues. Donc vous qui nous écoutez, qui cherchez une station-service, sachez que vous galérez non seulement parce que les salariés des raffineries veulent leur part des profits de Total, mais également parce qu'il y aura bientôt une élection à la tête de la CGT. Pas sûr que ça aide à patienter.
Tout autre chose, pardonnez-moi, dans Le Parisien, le prestigieux lycée de Paris, donc Henri IV ouvre ses portes à la mixité sociale.
Une machine à produire des premiers de la classe qui recrutait principalement des premiers de la classe. Depuis la rentrée, explique Le Parisien, la nouvelle direction ouvre son recrutement à plus d'élèves issus de la banlieue. Pour les uns, c'est la fin de l'excellence républicaine. Pour les autres, c'est la fin d'un entre-soi et d'un recrutement opaque et élitiste. Pour d'autres, enfin, c'est la fin de la ségrégation scolaire. Un membre de la FCPE, Fédération des parents d'élèves, s'en désole. Le niveau va chuter. Pensez donc, le lycée qui ne comptait jusqu'à l'an dernier que 9% d'enfants venus de la banlieue en admettra cette année 17%. De quoi terroriser certains parents. On lit dans Le Parisien toujours cette phrase édifiante et surréaliste, j'ouvre les guillemets. Dans le 5e arrondissement, les familles font grise mine, notamment celles qui ont investi dans l'immobilier pour assurer le ticket d'entrée à leurs enfants. J'ai vu une maman effondrée, témoigne un professeur. Sa fille a été affectée à Fénelon. Fénelon qui n'est que 13e au classement national des meilleurs lycées. Un vrai drame donc.
Et 8h44 sur l'antenne de Radio Classique, l'excellente revue de presse de David Abiquet. Nous sommes avec Christian Macarian. Nous sommes évidemment avec Rachel Kahn, Hervé Gattegno et nous retrouverons notre confrère Thomas Misrahi, donc qui travaille pour TF1 et LCI. Il est à Crive, à 2 heures du front sud. Et hier donc, il était à Dnipro et à Zaporijja. Il sera en direct sur l'antenne de Radio Classique, édition spéciale.